France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La fin d'un hiver un peu long, un hiver métaphorique, l'endormissement de certaines plantes rares. Plantes rares, oubliées parce que rares, rares parce qu'oubliées, objet d'une nouvelle mode. L'été 1995, Ruth Steghessy proposait une série à la bêche et au fourneau qui, comme son nom l'indique, s'intéressait au jardin et aux cuisines. Alors cette nuit, quittons la cuisine pour le jardin et donc pour des plantes rares. Peut-être en possédez-vous, peut-être les observez-vous et peut-être les protégez-vous avec amour. Alors soyez attentifs à cette émission proposée pour la première fois sur France Culture le 25 août 1995.
Et au fourneau. Et au micro, Ruth Steghessy. Et tandis que s'égrènent pour la dernière fois les petites notes de cette flûte en cougourde, est-ce que je vous l'avais dit ? Mais non, je crois que je ne vous l'avais même pas dit. C'est une petite flûte cucurbitacée qui a poussé dans le jardin d'Yves Rogisto. Tandis donc que pour la dernière fois de cet été, on entend ces petites notes de « À la bêche et au fourneau », eh bien, je vous propose une émission un peu paradoxale. On va parler de la fin d'un long hiver, l'hiver des plantes rares. L'hiver des plantes qui avaient disparu ou qui sont en voie de disparition et qui, au sortir d'une période assez longue, sont redevenues l'objet d'un engouement tel qu'il a suscité non seulement la création d'associations, non seulement des collections, non seulement, mais un ouvrage intitulé « Vers patrimoine » que l'on doit à Françoise Dubost, qui est sociologue au CNRS et qui est ici avec moi ce matin. Françoise Dubost, bonjour, merci d'être avec nous. Vers patrimoine, c'est un titre très joli et dont on se demande ce qu'il recouvre.
Vers patrimoine, c'était pour évoquer vers pâturage ou vers paradis, puisque le jardin, on le sait bien, c'est la figure traditionnelle de l'Éden. Et ce dont je voulais parler, c'est des jardins et des plantes de jardin qui, de façon toute récente, suscitent un très grand engouement, une redécouverte, une mode. Et j'ai commencé par étudier ce phénomène de mode en m'intéressant aux expositions-ventes de plantes rares qui ont commencé dans la banlieue parisienne, à Courson, à Saint-Jean-de-Bourgard, et qui ensuite se sont multipliées partout en province et qui témoignent de cet engouement dont
et de ce renouveau, puisque je disais long hiver, et effectivement, ce que vous avez découvert et ce qu'on va découvrir avec vous, c'est que cette passion qui est relativement récente, Courson, ça remonte à quoi, une dizaine d'années?
Ça a commencé, mais de façon toute petite, avec quelques poignées d'amateurs collectionneurs passionnés, en 1980. Donc ça a déjà 15 ans, voilà. Et de plus en plus, ça a attiré un public de plus en plus nombreux. Donc c'est aussi cet accroissement formidable du public de Courson, de Saint-Jean-de-Bourgard, qui est qui est dans une localité toute voisine.
Qui est une sorte d'émanation, en fait, de Courson. Enfin, c'est il ne faut pas dire ça comme ça.
Non, ce n'est pas une émanation.
Je vais en vexer quelques-uns.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'exposition de Saint-Jean-de-Bourgard s'est créée sur des modalités un petit peu différentes, a trouvé une autre formule, et c'est intéressant aussi. Elle s'est davantage appuyée sur la presse spécialisée, la presse des revues de jardinage, sur les associations, alors que à Courson, les organisateurs de Courson se sont appuyés d'abord sur leur réseau de relations et d'amis. Il y a une association aussi de propriétaires privés de jardins à l'origine, mais ça a essaimé, et puis ils ont fait appel très rapidement à des professionnels aussi, et ça c'est intéressant. Les professionnels eux-mêmes, paysagistes, pépiniéristes, sont rentrés dans ce circuit en se rendant compte qu'il y avait là, dans cette mode qui, au terme de cette enquête, m'apparaît plus qu'un phénomène de mode, quelque chose comme...
De plus profond.
Comme un mouvement de société autour de l'horticulture et de la botanique, parce que ça a une dimension plus forte et plus grande que ça, je crois.
En tout cas, Françoise Dubos, ce que d'emblée vous décrivez, c'est que au départ, c'est quelques individus qui, je dirais pas génèrent un réseau, mais en tout cas font émerger ce réseau, font apparaître un réseau qui existait déjà, un réseau d'amis, un réseau de connaissances qui partagent cette passion pour les plantes dites rares, et il faudra qu'on revienne sur cette appellation d'ailleurs, et puis qui élargissent à du public, et puis qui élargissent à des professionnels, etc. Alors, on peut se demander, et vous vous l'êtes demandé, comment est-ce que tout ça est apparu? Est-ce que c'est génération spontanée? Est-ce que véritablement c'est un mouvement qui est apparu brutalement? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt, et je crois que vous tendez plutôt vers cette deuxième possibilité-là, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une tradition qui aurait été mise en sommeil pendant un certain temps? Et à propos de cette tradition, évidemment, on pense immédiatement à l'engouement déjà très ancien pour les jardins, pour certains jardins publics, entre autres évidemment Bagatelle. Et à propos de Bagatelle, on écoute Jean-Christophe Chéry, qui est chef jardinier du parc de Bagatelle.
En principe, dans ces quatre planches, ces quatre massifs, sont présentés donc les rosiers qui ont été primés au fil des ans, depuis la création du concours jusqu'à maintenant.
Alors comment se déroulait ce concours ?
Alors, le concours qui a pour but de faire valoir le travail des horticulteurs, des obtenteurs de roses nouvelles, se déroule de la façon suivante. Chaque année, donc les obtenteurs nous envoient d'une façon anonyme un nombre de rosiers permettant leur présentation, et nous les cultivons sur 2 ans. Durant ces 2 années, les rosiers sont suivis et jugés par une commission technique qui les note en fonction de leurs caractéristiques, caractère de nouveauté, de résistance aux maladies, intérêt de la fleur, rusticité, vigueur. Et ensuite, au bout donc de 2 ans de culture, le troisième jeudi du mois de juin, a lieu le concours en lui-même, avec le grand jury, cette fois, qui désigne les lauréats.
Alors, les lauréats de ces concours voient donc leur rosier être planté ici définitivement ?
Oui, les lauréats, les médailles d'or et premiers prix, sont conservés autant que possible à Bagatelle.
Alors là, on est dans la partie des rosiers dits arbustifs, c'est ça ?
Oui, il s'agit de variétés que l'on peut laisser pousser de façon plus libre et pratiquer des tailles moins sévères, moins courtes que la plupart des hybrides modernes. Et on profite ainsi d'un développement plus important de la plante et d'un port plus souple.
On n'a pas l'habitude de voir des roses de cette nature-là chez les particuliers, hein, on dirait carrément des arbres.
Hein. Ça peut prendre un développement très important, jusqu'à 3 mètres de hauteur, et puis quand l'ensemble de l'arbuste est couvert de fleurs, c'est d'un effet très spectaculaire. Donc on trouve ici des rosiers présentés sous différentes formes, des rosiers buissons, hein, dont les rameaux partent de la base, des rosiers greffés sur tige, et d'autres variétés grimpantes ou sarmenteuses que l'on palisse soit sur des pylônes, soit sur des chênes ou alors sur une pergola.
Est-ce qu'on peut les trouver facilement dans le commerce ?
Alors facilement, pas pour tous, mais nous nous efforçons de présenter le plus large éventail de la production de rosiers disponible actuellement. C'est un de nos buts de faire valoir les productions actuelles et de permettre au public de les acquérir sur le marché. C'est pour ça que chaque rosier porte une étiquette et on peut, grâce au nom et au répertoire que nous possédons, mener des recherches après pour les trouver chez les producteurs.
La disposition même, par exemple, de ce massif-là, comment vous l'établissez ? Est-ce qu'il faut faire attention à ce que le mariage entre différents rosiers se fasse convenablement ?
C'est surtout dans un souci d'esthétique lors de l'association de couleurs que l'on essaie de ne pas faire côtoyer des coloris qui se heurteraient trop violemment. Sinon, sur l'ensemble de la roseraie, toutes les couleurs sont représentées et mélangées sans que cela choque du moins du monde.
Quelles sont les caractéristiques des rosiers modernes, des rosiers qu'on trouve aujourd'hui ?
Alors, une des principales caractéristiques, c'est leur floraison abondante et continue durant l'été, car la plupart sont donc maintenant des variétés remontantes et fleurissent de la fin mai jusqu'au gelé d'une façon abondante. Et ce qui font du rosier d'ailleurs un arbuste exceptionnel.
Françoise Dubost, quand on écoute Jean-Christophe Chéry qui répond aux questions de David Acoun, on a le sentiment d'être à la fois loin et près de ces expositions, ventes dont vous nous parliez, de Courson, de Saint-Jean-de-Beauregard, de tout ce nouveau mouvement, ce mouvement de société, dites-vous, autour des plantes rares. Je dis loin et près, vous allez peut-être me contredire. Loin parce que on a l'impression que Bagatelle est peut-être un peu surannée dans sa façon de réfléchir, de penser, de poser les problèmes. Près aussi, puisqu'on s'aperçoit que finalement, il y a toujours eu cette recherche, cette quête de la fleur particulière, de l'originalité, de la nouveauté.
Tout à fait. C'est très très intéressant l'exemple de Bagatelle parce que ce qui est la grande tradition de l'horticulture française, qui est une vieille tradition qui a été particulièrement glorieuse au 19e siècle. On avait des obtenteurs célèbres parmi les pépiniéristes et les horticulteurs français. Il y en a encore maintenant. Mais c'est la recherche de la variété inédite. Et c'est là que le phénomène actuel, qui est essentiellement parti des amateurs, est un phénomène passionnant à observer pour une sociologue ethnologue comme je suis, c'est que c'est une autre définition de la rareté. Et on voit bien à travers les propos qu'on vient d'entendre que ce qui reste important à Bagatelle, c'est l'obtention de la variété inédite. Alors ce qui intéresse les amateurs, ce sont les espèces en voie de disparition.
Donc ce n'est plus la rareté par nouveauté, mais la rareté par mort, par agonie.
Voilà, c'est ça. Ce sont des espèces qui sont devenues rares, qui étaient autrefois courantes, et qui sont devenues rares parce que les conditions de production horticole moderne, c'est-à-dire la sélection en conservatoire, en laboratoire, qui est faite uniquement en laboratoire, l'élevage, entre guillemets, des plantes, ensuite par des pépiniéristes spécialisés, ont fait que on a appauvri la palette végétale. On l'a appauvri pour avoir des produits de plus en plus robustes.
Au moins ça, puisqu'effectivement, Jean-Christophe Chéry parle de ces espèces remontantes qui fleurissent maintenant tout l'été.
Absolument, c'est très important. Donc, on a gagné aussi, il ne faut pas oublier qu'on a gagné en robustesse. On a aussi voulu obtenir des coloris de plus en plus éclatants, de plus en plus nouveaux. Bref, on est à la recherche sans arrêt de l'originalité et de la nouveauté chez les spécialistes. Et tout ça au détriment d'une diversité, d'une très grande diversité végétale. On a constaté que dans le domaine des fleurs, mais c'est vrai aussi pour les fruits et les légumes, et je crois que dans d'autres émissions, on en a parlé aussi, le progrès dans un domaine entraîne une grande raréfaction de la palette végétale, une érosion génétique, comme dit un spécialiste scientifique, parce que les scientifiques eux-mêmes s'inquiètent de cette raréfaction. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que tout un mouvement d'amateurs, de collectionneurs, souvent de collectionneurs très passionnés par leur goût des plantes, se sont spécialisés dans la recherche des variétés anciennes. Et par exemple, je connais une dame qui s'appelle Madame Ariane du Tremblay, qui habite près de Nîmes, qui avouait toutes ses dernières années à la recherche des variétés inédites d'iris. Mmh. C'est une collectionneuse d'iris absolument remarquable. Et elle cherche non seulement à rechercher toutes les variétés qu'elle peut trouver par échange avec d'autres collectionneurs, parce que les collectionneurs, comme vous savez, échangent beaucoup entre eux. Ils correspondent au sein
des
sociétés.
J'ai même vu qu'il y avait des échanges de lettres entre la France et la Chine, par
bien
exemple.
Bien sûr.
Des Chinois qui écrivaient pour demander...
Pour demander des variétés. Avez-vous telle variété de rosier?
Oui.
Et le collectionneur répond, oui, je l'ai, mais en échange, pourriez-vous m'envoyer telle autre variété? Bien sûr. Donc, c'est donc
pas seulement la plante devenue rare, mais autrefois commune chez nous, c'est aussi la plante rare, car très exotique, car très...
Oui,
qu'il faut acclimater.
Je dirais que la variété exotique, elle aussi, c'était la plante rare au sens traditionnel. Si on regarde le 19e siècle, par exemple, et même bien avant, parce que le goût des plantes s'est répandu en France avec la découverte du Nouveau Monde. Hein,
c'est vraiment. Ça, avec les grandes explorations.
Avec les grandes explorations. Donc il y a toute une tradition depuis le 16e siècle, 17e, 18e. Il y a eu beaux livres écrits sur les collectionneurs, les graines rapportées des voyages dans les pays lointains, etc. Mais si on s'en tient au seul 19e siècle, on avait par exemple au muséum tout un réseau qui était à la fois d'amateurs et de professionnels et qui se passionnait à la fois pour les obtentions de variétés inédites et pour les variétés exotiques qu'on cherchait à acclimater. Parce que le problème de l'acclimatation, c'était très, très, très important. Je parle du 19e, parce que c'est intéressant, c'est le moment où on a créé de très beaux jardins en France, où la mode des jardins à l'anglaise a répandu en même temps le goût
des espèces... Lesquels sont les jardins du 19e ?
Exotiques. Il y en a un que je conseille à tout le monde de visiter, qui est l'arboretum de Baleine, qui est dans l'Allier, pas très loin de Moulins. Et l'arboretum de Baleine a été créé par une dame qui s'appelait Aglaé
Adanson. C'est un nom extraordinaire.
C'est un nom extraordinaire. C'est la fille d'un très grand botaniste de la fin du 18e, Michel Adanson. Et elle n'était pas une botaniste, elle n'avait pas la passion pour l'herbier, pour l'identification de son père, mais elle avait une autre passion voisine, mais quand même assez différente, qui était la passion de l'acclimatation. Et c'est elle qui, pour la première fois, au début, ça se passe sous le Premier Empire, a acclimaté les nissas, les liquidambars, les cyprès chauves, dont la mode ensuite s'est répandue à travers tous les jardins de toute la France.
Mais alors là, c'est extraordinaire, puisque dans une seule famille, finalement, on a les deux grandes branches qui font aujourd'hui le lot commun des collectionneurs et des amateurs.
On a les deux volets de cette
érudits,
passion.
Les érudits, les étiqueteurs, et puis ceux qui enlèvent les étiquettes, décollent la graine et puis la plante pour voir ce que ça va donner et l'acclimatent.
Exactement. L'acclimatation et l'identification, ça peut être deux passions communes pour un même individu. individu, mais rarement.
Ah
on
oui.
on peut pas vraiment tout faire, je pense. Et en tout cas, c'est deux volets très importants.
Mais quand vous dites que c'est aujourd'hui des amateurs qui font cela, alors qu'autrefois c'était des spécialistes, à vous entendre, on a quand même le sentiment qu'il faut déjà posséder une érudition assez extraordinaire, ne serait-ce que pour savoir qu'une plante est rare.
Bien sûr. Souvent, d'ailleurs c'est ce qui a été à l'origine de l'exposition de Courson, ce sont des propriétaires de jardins historiques qui se trouvaient devant un problème de renouvellement des plantes, qui connaissaient eux-mêmes très bien les variétés qu'ils abritaient dans leur propre parc ou jardin, et qui étaient à la recherche de plants pour les renouveler et qui ne les trouvaient pas ou croyaient ne pas les trouver en France. Parce que un des aspects intéressants de ce mouvement, c'est qu'il a permis de redécouvrir chez beaucoup de pépiniéristes français des fonds de collection qui existaient, qui avaient été mis en veilleuse, ils étaient conservés mais non commercialisés. Et maintenant que les pépiniéristes s'aperçoivent que ça commence à intéresser un public de plus en plus important, ils leur remettent en culture des fonds d'espèces.
Comment est-ce qu'ils les avaient conservés?
Ils conservent dans leur pépinière.
Mais pendant combien de temps? Quand vous dites longtemps, c'est l'affaire de 10 ans, de 50 ans?
Oui, disons que il y a une espèce de... Ce qui est quand même très frappant dans la redécouverte, puisqu'on parle de redécouverte de l'art des jardins, puisque en même temps, on a redécouvert les jardins historiques, en même temps qu'on sent que cet engouement pour les plantes rares se développait. On a l'impression d'une redécouverte tout se passant comme si, pendant 40 ou 50 ans, disons, les gens ne s'étaient plus intéressés à ça en France. Parce que c'est pas le cas forcément ailleurs.
De l'Angleterre, par exemple.
Et, par exemple, en Angleterre, il y a toujours eu un public de jardins, à la fois un public des jardins historiques et puis des passionnés de jardinage.
Vous vous rendez compte ? Pouvoir ne plus aimer les jardins ou ne plus les regarder.
Avec ses plaines, avec ses prés, avec ses reines, avec ses fées, elle est. Quelle belle vallée que je m'en vais te raconter, que je m'en vais te rencontrer à pied. Les oiseaux ont les os creux comme des haricots. Les fourmis font leur nid aux racines des pissenlits. Les radeaux ont le dos qui font frémir les roseaux. Les radis sont petits, c'est pour ouvrir l'appétit. Quelle belle vallée,
quelle belle vallée.
Avec ses fermes et ses fermiers,
avec ses fermes et ses fermiers.
Avec ses graines et ses greniers bondés. Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées, avec ses cultures labourées, l'été. Les saisons font le con à travers toutes les saisons. Le ciel fond tout en larmes à chaque coup de feuille d'une arme.
Quelle belle vallée.
Les charrues, les chariots, les chenus et les chevaux tombent en rade, quelle salade à chaque coup de claironnade.
Quand il s'agit de parler de jardin, même Dick Annegarn sort de ses sentiers battus. C'est curieux, décidément. On sort de la maison, on sort de ce qu'on connaît. Françoise Dubost, on était en train de parler des jardins historiques et on évoquait le jardin d'Aglaé à Danson, l'arboretum de Baleine, avec un A dans l'Allier, Baleine. C'est un jardin qui a connu une destinée assez étonnante, puisque Aglaé à Danson, la fille du grand botaniste, avait acclimaté les plantes étiqueté par son papa, mais ensuite le jardin est parti à volo complètement, il a disparu sous les ronces. On est un peu dans l'histoire de la Belle au bois dormant ici.
Oui, mais très souvent en matière de jardin, parce qu'un jardin c'est très fragile, faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, beaucoup des collectionneurs que j'ai rencontrés sont hantés par l'idée que leur collection ne leur survivra pas. J'avais été très frappée par ce que me racontait Corinne Mallet, qui a une très belle collection de pivoines dans le parc de Varengeville et qui est une jeune femme tout à fait jeune et pleine de santé. Et elle me disait, mais qui s'en occupera après moi? C'était tout à fait touchant. Et je crois que on touche là du doigt quelque chose de très important et qui fait que conserver un jardin, conserver un beau jardin, conserver un jardin historique, c'est pas la même chose que conserver un monument historique. Il faut pas traiter le problème de la même manière, c'est-à-dire que on peut pas restaurer, donner un grand financement pour la restauration et après se croire tranquille. C'est une histoire à très long terme. Il faut qu'un jardin soit non seulement entretenu, mais qu'on prévoie à long terme le remplacement progressif de la végétation. Et le cas de Baleine est exemplaire. Ça, une arrière petite fille d'Aglaé à Dançon, qui est l'actuel propriétaire de Baleine, a repris ce parc et elle s'est dévouée corps et âme à la restauration du parc. Elle a fini par obtenir...
Elle l'a repris donc véritablement enchevêtré, plein de ronces
Ah oui, il était en mauvais état parce que pour l'histoire familiale était... un peu compliqué, donc elle l'a repris quand il était déjà en mauvais état, mais c'est le cas de souvent des jardins historiques qui nécessitent une restauration. Et heureusement, dans le cas de Baleine, les très très beaux sujets étaient encore tout à fait...
Ils étaient présents.
Ils étaient
Mais qu'est-ce qui se passe justement quand un jardin est abandonné comme cela? Vous dites un jardin, c'est fragile. C'est vrai, mais finalement, qu'est-ce qui reste quand la végétation naturelle, dirons-nous, a repris ses droits, a repris le dessus, quand les liserons, les ronces ont envahi, quand c'est en friche, est-ce qu'on peut tout de même retrouver dans le sol des traces de ces jardins tels qu'ils ont été autrefois, ou bien est-ce qu'il faut les reconstituer d'après une mémoire écrite? Comment ça se passe?
Mais c'est toute une série de problèmes qui sont très complexes, effectivement. Il y a une archéologie du jardin qui est en train de se développer actuellement, mais toute cette science est très récente, très très récente, parce que jusqu'à maintenant, le jardin historique n'était pas reconnu comme un monument historique. Il était conçu comme une annexe du château ou du domaine, que par ailleurs, on classé monument historique. Mais il n'était
pas... Donc on se contentait de tondre la pelouse et de tailler vaguement les arbres pour
absolument.
Que ça ait l'air propre, quoi.
Absolument. Et ça pose toutes sortes de problèmes absolument passionnants, parce que un jardin bouge au cours du temps. Pour donner l'exemple du jardin du Luxembourg, qui est à nos yeux, à tous, le type même d'un jardin à la française, il a beaucoup bougé depuis le XVIIe siècle, c'est évident. Le tracé...
C'est évident, c'est-à-dire on le sait.
On sait oui, on le sait. Là, on a des documents pour le savoir.
C'est les plates-bandes qui ont changé. C'est le choix des plantes qui sont.
Non, il reste certains éléments du tracé, les terrasses, etc. Mais même la forme du bassin, par exemple, qui est octogonale maintenant, a été ronde et redevenue, etc. Enfin, tous les jardins bougent à travers le temps.
Puis comme même le minéral, alors, suit les plantes.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et le minéral a toujours une part importante, puisque un jardin, c'est peuplé, un jardin historique, de statues, de bandes, bien sûr. Il y a
toute une décoration,
décoration
bien sûr,
du jardin qui n'est pas seulement végétal. Il y a aussi et surtout de l'eau, et l'eau pose des problèmes tout à fait particuliers dans un jardin. Et la grande tradition de l'art des jardins est très liée à l'hydraulique. Il y a une science de l'hydraulique particulière au jardin qui est elle aussi une chose passionnante et qu'on n'a pas beaucoup étudiée jusqu'à maintenant. Les Italiens qui ont des grands problèmes comme nous de restauration des jardins historiques parce qu'ils ont un capital de jardins absolument énorme et pas beaucoup de financement possible malheureusement. Mais ils ont développé déjà depuis longtemps des études sur les jardins historiques. Ils sont beaucoup plus avancés que nous, par exemple, les Anglais aussi. Mais nous, on commence à développer une histoire de l'art des jardins depuis 10-15 ans, il y a eu quelques pionniers, et puis on commence à développer une histoire des jardins et à s'apercevoir que ça met en jeu des disciplines différentes et que on ne peut pas restaurer ou suivre un beau jardin sans une véritable équipe qui comporte à la fois un historien de l'art, quelquefois un archéologue, un paysagiste, un spécialiste.
Voire des horticulteurs et des pépiniéristes.
Des horticulteurs et des pépiniéristes, et des jardiniers, ça va sans dire. Des jardiniers spécialement formés pour ça.
Mais là,
travail d'équipe tout à fait important.
Ce que vous dites, c'est bien tout de même qu'on n'a pas encore, ou plus, et il faudrait qu'on en parle, de professionnels du jardin. Ou qu'en tout cas, on recommence à en avoir, mais il semblerait qu'il y ait eu toute une période pendant laquelle tous ces professionnels que vous évoquez, les architectes, les paysagistes, etc., aient en quelque sorte disparu de la carte.
On ne peut pas dire vraiment ça, parce qu'on a au contraire développé la profession des paysagistes à partir du lendemain de la guerre.
C'est donc plutôt culture historique.
Ce qui s'est passé, c'est que on a créé, par exemple, l'école du paysage de Versailles et bien d'autres écoles à différents niveaux de spécialisation pour un débouché qui était la construction neuve, la création d'espaces verts. Il y avait un tel débouché pour les créations nouvelles que le jardin historique n'était pas du tout une priorité. Il y avait un énorme débouché
ailleurs.
C'est-à-dire
que tout cela s'est fait au lendemain de la guerre, dans la pleine période de la reconstruction.
Tout à fait, tout à fait. Et la profession de paysagiste était destinée, lors de sa création, au traitement des espaces verts dans toutes ces grands ensembles, villes nouvelles, etc., qu'on était en train de créer. Il suivait le grand mouvement d'urbanisation qui était celui de la France à cette époque.
Et donc il suivait aussi les horticulteurs qui produisaient en masse les prunus, les forsythias.
Bien sûr. Et là aussi, comme il fallait produire en masse et produire des espèces robustes, là encore, tout ça a concouru pour qu'on aboutisse à cet appauvrissement de la
standardisation en tout
et
cas
standardisation aussi. Et appauvrissement de la palette végétale qui maintenant suscite une réaction contre la standardisation, réaction et avec le mot d'ordre. Et c'est intéressant parce que ça rejoint bien le mouvement écologiste qui est certainement une composante de ce renouveau d'intérêt pour les jardins et pour l'art des jardins. Le maître mot de diversité, c'est redonner la diversité, retrouver la diversité végétale.
Alors justement, est-ce qu'on peut juxtaposer ces deux mouvements? Est-ce qu'on peut juxtaposer le mouvement écologiste et le mouvement des amateurs qui redécouvrent les plantes rares et qui redécouvrent la diversité? Est-ce que c'est un seul et même mouvement? Non.
Je crois que ce sont des mouvements voisins et cousins. C'est pas tout à fait le même mouvement parce que la pensée écologiste s'est développée beaucoup autour du sauvage et notamment des espèces sauvages. Mouvement associatif qui a précédé des années 60-70 s'intéressait beaucoup plus aux espèces sauvages. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont suivi la création des zones naturelles, des parcs naturels, etc. Tout ça avait pour objectif la conservation, la préservation des espèces sauvages. Et les espèces
donc
cultivées...
Donc il ne fallait surtout pas que la main de l'homme s'approche.
Il fallait, disons en gros, il fallait préserver l'homme était conçu comme un prédateur. Ça, c'est vrai que c'est dans l'idéologie de l'écologie de ces années-là. Alors que maintenant, l'écologie elle-même a évolué, au moins dans certaines de ses composantes, c'est-à-dire qu'elle cherche beaucoup moins à préserver une nature exceptionnelle qui serait à l'abri de ce que les hommes peuvent produire comme menace du grand méchant homme, et bien davantage à préserver une nature ordinaire, une nature de tous les jours. Et on voit très bien dans le mouvement associatif que j'ai étudié, que je trouve très, très touchant, parce que il y a dans ce mouvement associatif des militants qui se passionnent pour la préservation du chardon bleu des Alpes ou du bleuet des moissons ou de la salicaire ou de toutes ces plantes de bord de chemin dont on sait bien qu'elles disparaissent. Elles disparaissent à grands coups de désherbants parce que les cantonniers ont des procédés beaucoup plus expéditifs et brutaux qu'autrefois. Il y a toute une flore familière qui est à la fois qui est demi-sauvage, demi-cultivée, puisque souvent elle accompagnait les espèces cultivées. Et puis, il y a aussi toute une volonté de préserver ce qui est particulier à un lieu. Et moi, toute la composante régionale, locale, j'ai trouvé ça très frappant.
Est-ce que ça a un sens, ça, sur le plan végétal, cette régionalisation, cette localisation aiguë ? Est-ce qu'il y a véritablement des plantes qui poussent uniquement dans la Drôme, dans l'Allier,
Parmi les plantes cultivées, sans doute, bien sûr, il y a toute une série de variétés cultivées qui avaient des variantes locales très très spécifiques. Et par exemple, tout le mouvement qui s'est développé autour des pommes. C'est intéressant, les pommes, c'est pas seulement la pomologie. La pomologie, c'est tous les fruits. Mais la pomme a été à l'avant-garde du mouvement de militantisme pour la préservation des variétés locales. Il y a eu les croqueurs de pommes, ils ont été parmi les tout premiers.
Avec un C majuscule, c'est une association.
C'est une association. Il y a aussi les mordus de la pomme, il y a aussi, etc. Et tout cela ont le souci de retrouver des variétés de pommes. On le sait bien que sur les marchés, on ne trouve plus de variétés locales. On ne trouve plus que 4 ou 5 variétés, toujours les mêmes.
La rouge, la jaune, la verte.
La rouge, la jaune, la verte, etc. La Canada, la Rainette et la Starkey, etc. Et il y a énormément de gens qui veulent retrouver la saveur du passé et la saveur du terroir. C'est les deux à la fois. C'est à la fois la nostalgie du passé et la nostalgie
d'un espace. C'est le temps et l'espace concentrés dans la pomme.
Voilà, concentrés dans la pomme. Et donc c'est une dimension patrimoniale en fait qui est très forte dans tout ce mouvement et qui m'a paru très intéressante. Alors j'ai cité les pommes, mais il y a aussi les légumes. Il y a un grand nombre de passionnés collectionneurs de légumes.
Les cucurbitacées, entre autres, ont fait...
Les cucurbitacées, et ça, je pense que c'est aussi en raison du côté tout à fait spectaculaire des cucurbitacées, parce que ça a des formes et des dimensions tellement belles, tellement drôles, tellement étonnante que ça suscite un engouement particulier. Et la foire au potiron de Transo, a été aussi une des toutes premières, avant même Courson. Elle a commencé en 78 ou 79, je crois.
Il y a donc ce plaisir de la saveur, il y a ce plaisir du goût, il y a ce plaisir de retrouver, et puis il y a aussi le plaisir, vous le disiez, esthétique, qui est un plaisir visuel. Et il y a donc les cinq sens qui sont sollicités par les fleurs, par les plantes, par cet amour. Jardin des cinq sens, c'est justement le nom de ce jardin de Pontoise qui est, en principe, dit-on, pour les non et les malvoyants, mais qui est en fait pour tout le monde. Et on écoute Jean-François Molitor.
De part et d'autre, en bordure de ce carrefour d'allée, nous trouvons des plantes basées uniquement sur des espèces ou variétés de pélargonium qui ont l'avantage de diffuser des parfums très 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 particuliers comme le rosa, ce qui rappelle un petit peu le dermophile indien que l'on stique, que l'on badigeonne, avec lequel on recouvre les lèvres pour protéger des gerçures en hiver.
Le géranium odorant, par exemple.
Géranium odorant. Ce sont tous des géraniums odorants qui nous entourent. Vous en avez qui rappellent un chocolat particulier qu'on appelle After Eight, qui rappelle la menthe et le chocolat. on peut en froissant apprécier justement cette fragrance qui est assez développée. Juste à côté, nous avons une plante très très particulière, relativement rare parmi les pélargoniums, qui rappellerait elle toujours par froissement et par froissement du feuillage, le calva.
Absolument. Donc,
effectivement, une odeur de pomme légèrement alcoolisée. En vis-à-vis, nous retrouvons un autre pélargonium qui, lui, va rappeler une odeur plus citronnée, une odeur de citron vert.
Et ce qui est frappant, c'est la diffusion de l'arôme, la diffusion de cette senteur qui est très forte. Il suffit d'un peu frotter.
Tout à fait, c'est ce qui caractérise ces plantes dites aromatiques, mais qui ne sont pas pour la plupart utilisées dans la cuisine, hein, pour des préparations destinées à être parfumées. Vous avez à la fois un support de feuilles qui joue, pour ceux qui ont la chance de voir, par les différences de coloris, des feuillages panachés, d'autres feuilles qui sont grises ou bleutées, ce qui permet de jouer sur des contrastes. Mais en même temps, pour un non-voyant, il a la possibilité, donc par froissement, d'apprécier le différent parfum et les textures, ainsi que les fragrances qui sont proposées à la découverte du promeneur.
Donc effectivement, ce jardin est ouvert à tout le monde.
Il est ouvert à tout le monde, exactement. Nous avons pris soin de développer et de matérialiser l'aspect purement fonctionnel, à savoir la création de listes de guidage, donc qui bordent l'allée, qui par la même occasion soulignent le tracé du jardin, les renvois d'étiquetage qui permettent donc aux non-voyants de retrouver à portée de main la nomenclature des végétaux qui sont mis à sa disposition.
Bien sûr, vous avez plantes qui viennent du monde entier, c'est ça?
Oui, exactement. On pourrait dire que c'est un jardin des cinq sens, au même titre qu'un jardin des cinq continents, pour simplifier.
Combien d'arbustes, de plantes, on peut trouver ici?
Ici, il y a approximativement 140 espèces et variétés de plantes, comprenant donc les arbres, les arbustes et puis les plantes vivaces.
Françoise Dubost, quand on écoute Jean-François Molitor qui répondait aux questions de David Hacoun, on est frappé de quelque chose que vous avez remarqué et souligné vous aussi, c'est ce côté extraordinairement pédagogique des jardins.
Bien sûr.
Vous parlez même, vous, de militantisme pédagogique. Les collectionneurs, les amateurs de plantes rares sont des militants pédagogiques.
Absolument. J'ai été très frappée par la volonté des responsables d'associations de répandre un savoir botanique qui est en voie de disparition. On n'enseigne plus la botanique à l'école. On l'enseigne plus de moins en moins à l'université. Les pharmaciens n'ont plus l'enseignement botanique qu'ils avaient autrefois.
Et tout pourtant, ça... très souvent, sur l'enseigne des pharmacies, il y a écrit herboristerie également.
Oui, parce que les pharmaciens sont devenus les seuls dépositaires, puisque l'herboristerie le métier d'herboriste a été supprimé. Il n'y a plus les herboristeries qui restent, ce sont en voie d'extinction, ce sont les derniers. Et c'est un paradoxe étonnant, à un moment où, sous la pression du public, on redécouvre les vertus des plantes et on sait bien qu'il y a tout un mouvement qui a accompagné le développement des médecines douces et la guérison par les plantes, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que sous la pression du public, un certain nombre de choses se redécouvrent. On parlait de bagatelles tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les concurrents de bagatelles, on a parmi les prix distribués à bagatelles, on a dû rétablir, sous la pression de la demande et sous la pression du public, un prix du parfum.
Puisque les roses ne sentaient plus.
À privilégier la couleur ou la grosseur ou la robustesse des plantes, on avait fini par perdre le parfum des plantes.
Ce qui était un scandale.
Des roses qui étaient tout à fait scandaleux, bien sûr. Donc, il y a une demande du public. Et je crois que ce qui est intéressant en ce moment, c'est cette demande du public qui n'est pas simplement une demande de plus de couleurs, de plus, une demande de pur consommateur. Et ce que j'admire beaucoup dans ce mouvement associatif qui s'est développé, c'est la soif de connaissance, c'est le besoin d'identifier les...
On a véritablement le sentiment qu'il s'agit d'un véritable mouvement d'éducation populaire qui est en train de redémarrer à travers ces passionnés des jardins.
Tout à fait.
Et c'est très frappant dans la liste d'associations que vous mettez en annexe de votre livre, Vers Patrimoine. D'abord, le nombre d'associations est absolument ahurissant. Il y en a combien ?
J'en ai recensé seulement une faible partie, dans les limites de mon étude, mais au moins 200.
Qui se sont créés après.
Depuis 70.
Voilà, depuis 1970.
Qui sont donc tout à fait distinctes des sociétés d'horticulture anciennes, qui continuent souvent à exister, à se renouveler, à prospérer, etc. Mais qui ont, pour ce qui est de ces associations nouvelles, des buts un peu différents, qui sont justement le développement du savoir botanique,
voilà, pratiquement toutes
de l'horticulture,
font des promenades commentées, des conférences, donnent des indications, donnent éventuellement des graines. Enfin,
fonctionne aussi énormément, voilà, sur la base de l'échange,
du bénévolat.
Ouais. Absolument.
C'est donc effectivement éducation populaire.
Oui, il y a une dimension d'éducation populaire incontestable dedans et que j'ai trouvé frappante.
Alors vous-même, vous en avez appris beaucoup sur le monde des collectionneurs et des amateurs. Est-ce que vous avez appris aussi beaucoup sur les plantes elles-mêmes ? Est-ce que vraiment on apprend au contact de toutes ces associations ? Est-ce qu'on découvre des choses ?
On apprend, bien sûr, mais quand on n'est pas, comme moi, un spécialiste, on apprend surtout qu'on ne sait rien.
et que le monde est vaste.
Oui, et on mesure tout ce qu'il faudrait apprendre pour s'y connaître. C'est un savoir qui est complexe.
Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari? Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari? Pour moi, ne chante guère, car je n'ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari? Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari? Il est en Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari? Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
À la bêche et au fourneau, les plantes rares, par Ruth Stegassi, qui recevait Françoise Dubost le 25 août 1995. Réalisation Didier Lagarde.